Pour commencer, je voudrais avec vous partager le plaisir de relire Maldiné, les premières lignes du dernier chapitre de « Ouvrir le rien, l'art nu », l'œuvre d'art comme essence. Le pur et simple être là, Dasein, sans détermination aucune, ni de genre ni de forme, dit Schelling, apparaît à celui qui le voit ainsi comme un monstre qui suscite l'effroi. Quelque chose de cet effroi semble passer en chaque œuvre d'art. Le beau n'est rien, dit Rilke, que le commencement du terrible à l'extrême limite de ce que nous pouvons supporter. Alors c'est de ces quelques lignes, de la méditation de ces quelques lignes qu'est née, on va dire, ma réflexion sur la question de la Peyronne, la limite et le sans-limite dans la pensée de Maldiné. C'est le sujet qui était annoncé pour cette intervention aujourd'hui. Je dois dire que je parlerai exclusivement de la lecture de la sentence d'Anaximandre par Maldiné. Je dirais que ce que je présente aujourd'hui est très lent, très patient finalement, et n'est que comme une introduction à cette question de la limite sur laquelle je suis en train de décrire actuellement, on va dire un commencement de réflexion. Alors la question de cette limite, la distinction on pourrait dire, et l'opposition de la limite et de l'illimité est au cœur de la pensée de Maldiné. Je voudrais montrer aujourd'hui que cette tension entre la limite et le sans-limite constitue, à mes yeux, un fil directeur pour lire et pour comprendre son œuvre. Son œuvre, c'est-à-dire, bien sûr, les livres publiés, les articles dont nous pouvons disposer, des conférences, mais aussi les entretiens. Et je pense que, pour cette question de la Peyronne, une des meilleures introductions à cette réflexion se trouve dans « Avènement de l'œuvre » et dans l'entretien consacré avec Chris Younes, consacré à la question du chaos et de l'harmonie dans la pensée de Maldiné. Alors, ce qui est en jeu également dans la réflexion aussi sur la Peyronne, c'est la proximité et la distance de Maldiné avec Heidegger, avec la pensée de Heidegger. Dans l'œuvre de Maldiné, une seule partie du fragment est présente, évoquée dès ses premiers textes. Il n'y a pas de commentaire à proprement parler, comme il l'a fait par exemple pour certains dialogues platoniciens dans « Être de la langue et demeure de la pensée ». Mais il y a une présence, une reprise constante de la sentence dans les œuvres, dans les livres d'Henri Maldiné. Nous voudrions comprendre aujourd'hui la profondeur ontologique et également la puissance heuristique de cette pensée d'Anaximandre pour Henri Maldiné. Le point d'ancrage de toute cette interrogation et sa réponse donc se trouve dans cette sentence ou parole d'Anaximandre rapportée par Simplicius dans son commentaire sur la physique d'Aristote. Maldiné propose lui-même plusieurs traductions du fragment. Dans « Être de la langue et demeure de la pensée », je cite « l'origine archée des étangs et l'infini » Apeyron. C'est là où les étangs ont leur naissance, Genesis, que la mort leur advient. Selon la nécessité, car ils paient le juste prix et subissent les uns des autres la peine de leur injustice selon l'ordre du temps. Dans « Ouvrir le rien, l'art nu », autre formulation de cette sentence, l'origine des étangs est la Peyronne, c'est d'où les étangs prennent naissance qu'aussi les atteint la mort, selon ce qui est dû. Nous pouvons ainsi observer que la plupart du temps, Maldiné renvoie son lecteur à la sentence sans traduire le terme d'Apeyron dans des citations donc, qui sont, on va dire, des reprises qui sont toutes différentes les unes des autres, parfois en italique, parfois en français, parfois en grec, avec majuscule, sans majuscule, en italique. Enfin, bon, on a, on va dire, des versions qui sont très différentes. Alors cela soulève plusieurs difficultés. Dans son premier livre publié, Regard, parole, espace, dans Comprendre, Maldiné traduit Apeyron par l'indéterminé, puis par infini, puis par un-fini privatif, ou infini indéterminé, ou dans Être de la langue et demeure de la pensée, le mélange indéterminé, l'illimité, Et, me semble-t-il, de manière récapitulative dans Ouvrir le rien, l'art nu, la peyronne, le sans limite, l'un-fini, qui s'enterme péras, d'où l'on puisse le dé-finir, et l'indéterminé. Que nous révèlent ces différentes traductions de la peyronne, nous ne pouvons pas comprendre complètement. Immédiatement, tout d'abord, nous ne pouvons pas comprendre immédiatement ni entièrement un texte écrit dans une langue ancienne, un texte qui ici n'est qu'un fragment que nous ne connaissons que de seconde main, et on va dire à travers toutes ces strates aussi d'interprétation. Un lecteur peut deviner le sens des mots dans un texte, mais comme le rappelait Monique Dixot, on comprend mal et souvent on croit comprendre. Or, me semble-t-il, il faut de la prudence, de la subtilité pour saisir le sens de la peyronne. Reconnaître également son étrangeté. Il y aurait alors une mise en abîme du travail d'interprétation du philosophe ou du philologue, c'est-à-dire du chaos à la forme, de la peyronne à la détermination individuelle et singulière. Une lecture active est une lecture qui donne forme et signification. La chose prend forme en la comprenant. La lecture est créatrice. Elle met en œuvre une multiplicité de forces et d'énergie. Par philologie, écrivait Nietzsche au paragraphe 52 du Quai Savoir, on doit entendre, au sens général, l'art de bien lire. Arrêtons-nous un instant sur cette question de la lecture philologique. D'après l'édition du philologue allemand Hermann Diels, paru en 1903, et complété en 1952 par Walter Kranz, édition citée par Maldiné, nous trouvons le fragment que nous tentons aujourd'hui de comprendre. Anaximandre fait intervenir les concepts de principe et d'illimité. Tout provient de l'illimité et tout y retourne. Mais on ne sait comment, par quelle cause cela se produit, de l'un au multiple ou du multiple à l'un. Maldiné veut accéder à la formulation qui lui semble la plus juste, de ce que devait être la pensée d'Anaximandre et du problème initial qu'elle pose, c'est-à-dire l'articulation du principe illimité et d'un mouvement éternel. La peyronne est bien un illimité, un indéterminé, du point de vue de la forme, de la matière également, plus qu'un infini, au sens du néoplatonisme. Toute explication, on pourrait dire, alors, nous le comprenons en lisant Maldiné, ne peut être qu'anachronique. Comme le souligne d'ailleurs l'ensemble des dernières études philologiques consacrées à la pensée d'Anaximandre, je pense à certaines réflexions de Jean-François Prado ou de Jérôme Laurent. La philologie, ici nous ramène à cette question, ce philosophe milésien pense un rythme, l'ordre du temps, l'opposition de la justice et du châtiment, et une structure au sein de ce qu'il présente. C'est ce que les citateurs désignent pour leur part comme un principe, l'arché, et qu'Anaximandre nommait peut-être la peyronne, c'est-à-dire ce qui contient et enveloppe et gouverne tout. Il n'est donc pas l'illimité infini, donc du néoplatonisme, mais plutôt un indéterminé qui va se déterminer peu à peu, comme une mer primitive, on va dire, un monde des vivants, puis avant que tout disparaisse dans l'indéterminé, pour renaître peut-être cycliquement de lui. Maldiné, dans sa lecture, met en évidence cet infini privatif, pour penser le mouvement, c'est-à-dire, je cite Maldiné, « sa double illimitation, passé et futur, la privation de ce qui est fini et limité », c'est dans un premier temps la question de la temporalité, donc, me semble-t-il, et du devenir qui est soulevé par Maldiné, et qui nous semble prolonger l'interprétation proposée par Nietzsche dans ses cours du semestre d'été 1872, puis 1873 jusqu'en 1876. Nietzsche voulait écrire un livre sur les pré-platoniciens, la philosophie à l'époque tragique des Grecs. Dans son interprétation, Nietzsche nous dit, me semble-t-il, quelques éléments, enfin quelque chose qui est très important et qui m'ont aidé à comprendre Maldiné aussi, c'est-à-dire qu'Anaximandre a fait de la peyronne un terme philosophique, mais on ne doit pas se méprendre sur ce concept comme ses successeurs l'ont fait, et qui ont appliqué finalement d'autres problèmes. On ne connaît pas les fondements de cette pensée. La Peyronne contient l'unité fondamentale, écrit Nietzsche, le gérant maternel de ce qui est en perpétuel engendrement. Ce fut, écrit-il, un prodigieux saut en avant accompli par Anaximandre. L'individu qui s'est, on pourrait dire, dégagé de la Peyronne, dans la lecture nietzschéenne, doit à la fin y revenir, mais la Peyronne est intemporelle. Le temps n'existe que dans le monde individuel. Pour Nietzsche, cette sentence est à l'origine d'un questionnement qui va traverser toute l'histoire de la métaphysique. Comment peut naître un monde individuel? Quelle est la force qui rend possible un développement à partir de l'unique apeirone? Il annonce finalement la séparation entre un monde de l'être éternel et un monde empirique soumis au devenir. L'être originel est privé de qualités déterminées qui mènent à la mort, et donc l'immortalité ne réside pas dans l'infinité. Anaximandre a fait un pas important en avant, je cite Nietzsche, « L'hypothèse d'un monde unique de l'être véritable et métaphysique est opposée à un monde physique du devenir et du déclin. Ce qui est donc qualitativement indéterminé comme matière originelle, à laquelle fait face ce qui est déterminé quantitativement, individuel, singulier, affligé par l'injustice. » Nietzsche continue, « Il y a chez Anaximandre la formulation de la valeur de l'existence. » Il est, écrit-il, le premier philosophe pessimiste, le premier à avoir, dit-il, posé le problème de l'existence. Ces affirmations de Nietzsche me semblent entrer particulièrement en résonance avec la pensée de Maldini. Tout d'abord, la réflexion sur la substance ou la matière n'est pas pertinente, nous dit Nietzsche. La Peyronne, comme le rappelle Maldini dans « Être de la langue et demeure de la pensée », n'a rien à voir non plus avec l'eau ou avec quoi que ce soit qu'on nomme élément. Un millénaire après, la mécompréhension d'Aesius témoigne encore de l'originalité d'Anaximandre. L'infini, dit-il, n'est rien d'autre que la matière, mais la matière ne peut pas être énergie en acte si le principe actif ne lui est pas sous-jacent. Et Maldini commente encore, la Peyronne exclut précisément cette dualité. Il est identiquement matière et énergie, l'opposition intérieure à la cosmogénèse est d'un autre ordre. Ainsi, nous pourrions dire que la tension entre le chaos et le cosmos, l'ordre et le désordre, l'indéterminé et le système des déterminations, plus ou moins nécessaires et mouvantes, qui constituent notre monde, ou notre expérience des choses, ne relève pas de la Peyronne. Penser la Peyronne exige de nous une approche qui n'est pas, je dirais, représentative ni peut-être strictement conceptuelle, mais plutôt du côté de ce que Maldini désigne, et je n'ai trouvé qu'une seule occurrence à l'occasion, on va dire, de ce commentaire, une ontologie sensible. C'est dans « Être de la langue et demeure de la pensée », à la lecture de l'ouvrage de Lohmann, « Musike und Logos », c'est à propos de la musique que Maldini réfléchit et nous éclaire sur le sens de la Peyronne, par l'évocation du système musical grec, que c'est par cette évocation que Maldini établit une analogie entre le système musical et la relation de l'indéterminé au cosmos, compris comme totalité du monde, comme système ordonné. Je cite Maldini, toujours dans « Être de la langue et demeure de la pensée », « La musique permet de préciser le plus subtil de la doctrine d'Anaximandre, la relation de l'infini et du tout, qui n'est rien moins que naïve, entre la Peyronne, écrit-il, et le système comme tout, la différence est absolue. » Ce que j'en comprends, je dirais, c'est que la Peyronne ne peut être régie par aucune finalité, il ne peut tendre par lui-même vers un terme ou un accomplissement. Néanmoins, la musique nous laisse entendre des sons, des variations de ton, des rapports entre les sons ou les intervalles, des événements sonores qui constituent une plénitude ou un monde sonore sans pour autant être réductible à une totalité. Mais en elle se trouve lié, se trouve relié ce qui fait émerger une forme sonore, qui contient par conséquent un ordre, des limites, mais qui n'en provient pas, et qui exprime ce qui par nature, donc dans la musique, lui est complètement étranger, et ceci à deux niveaux différents, celui de l'indétermination originaire et celui de l'avènement d'une forme, d'un point de vue cosmogénétique, comme le rappelle Maliné, ou d'un point de vue esthétique, une forme picturale ou une forme musicale. Enfin, pour reprendre la conclusion de Nietzsche, qui, à mon sens, correspond exactement au point de départ de la pensée de Maldiné, du commentaire de Maldiné, la pensée d'Anaximandre pose un problème majeur qui est celui de l'existence. Maldiné écrit, toujours dans Être de la langue, « D'Anaximandre à Heidegger, la question des rapports du fond et de l'existence traverse toute l'histoire de la pensée essentielle. Selon la seule phrase qui nous soit parvenue du premier, le fond primordial qu'il appelle l'apeiron, l'indéterminé, l'infini et le principe des êtres. Et c'est là, d'où ils prennent naissance, que nécessairement les atteint la mort. » Pour Henri Maldiné, comme pour Nietzsche, le problème de l'existence est ici entièrement posé, sans pour autant être ramené à celui de la vie. Existence en quel sens, ici ? Exister, c'est vivre et mourir, à partir de la parole d'Anaximandre, successivement, et me semble-t-il, c'est peut-être ce qu'il faut saisir de cette parole-là, corrélativement. Mourir sa vie et vivre sa mort, et parfois vivre sans vivre, et mourir de ne pas mourir, pourrions-nous dire, cette limite est mouvante. Et elle est peut-être parfois plus rigide. C'est ce qui appelle une réflexion plus approfondie sur l'existence. Non en termes de valeur, comme l'avait fait Nietzsche, mais chez Maldiné, en termes d'être et de pouvoir être. Comme Nietzsche en avait eu l'intuition, et comme il l'a effectivement éprouvé dans l'effondrement de sa propre existence. Si nous sommes confrontés à cette question première, celle du rapport de l'existence à son fond, l'analyse de la sentence d'Anaximandre conduit Maldiné à s'interroger, bien sûr, sur le commentaire de Heidegger. C'est de cet examen et de la discussion critique de la lecture heideggerienne du philosophe milésien que va être formulée une affirmation majeure de la philosophie de Maldiné, qui révèle toute sa puissance et toute son originalité. Héraclite et Parménide sont constamment cités par Heidegger, mais Anaximandre a une place plus réduite. Enfin, je ne peux que renvoyer ici à l'analyse de Marlène Zarader dans son livre Heidegger et les paroles de l'origine. Une place plus réduite, c'est on va dire un texte tardif qui lui est consacré, les Grundbegriffe, les concepts fondamentaux, dans le cours de 1941, l'apeiron est longuement analysé. Alors que dans le texte peut-être plus connu, la parole d'Anaximandre qu'on trouve dans Holzweg, dans ce texte-là, publié en 1946, tout se passe comme si Heidegger mettait entre parenthèses la question de la Peyronne. Je relis, on pourrait dire avec vous, un peu ces concepts fondamentaux et j'en garde quelques éléments qui me semblent importants pour Maldiné. Au paragraphe 20, Heidegger s'interroge sur la première parole du penseur grec. Ce qui est important, c'est que cette parole nous a été transmise et Heidegger cherche la vérité contenue dans cette parole, l'essence de ce qui s'y trouve dit. Et il nous rappelle qu'on ne peut pas résumer les grandes lignes de sa philosophie. Il s'agit, dit Heidegger, d'un penseur du commencement. Il n'y a ni physique, ni éthique, ni élaboration philosophique, mais avant tout une parole, je cite, qui parle à partir de l'unité originelle d'une pensée initiale en ce qu'elle a d'unique. Il y a donc une radicalité de la démarche et de la lecture de Heidegger qui est également présente chez Maldiné. Mais il s'agit chez, on pourrait dire, Heidegger, de faire abstraction de toute connaissance antérieure, enfin c'est du moins cette position qu'il veut adopter, et d'être à l'origine de toute parole originaire. Il écrit « La remémoration du commencement » et à l'écoute de la parole d'Anaximandre. Pour Maldiné, la pensée de l'apeiron suscite aujourd'hui plus que jamais l'étonnement, comme c'était le cas pour Heidegger. Elle contient une parole matricielle. Je cite Maldiné dans « Ouvrir le rien, l'art nu ». L'importance de la phrase d'Anaximandre ne tient pas tant à la réponse qu'elle apporte qu'à l'ouverture de la question à laquelle elle répond. Elle inaugure le questionnement philosophique. Ce qui fait l'originalité d'Anaximandre, c'est son sens et son souci de l'originarité. Son propos n'est pas d'accorder l'investiture de l'être à quelque déterminité constituant l'être quoi d'un élément primordial, écrit Maldinet. Il est de fonder la possibilité d'être de ce qui est. Ce en quoi il n'est ni théologien, ni physicien, mais philosophe, capable d'étonnement devant le monde. Du commentaire de Heidegger, Maldinet va retenir et accepter, on pourrait dire, et faire et s'approprier un certain point important. L'arché, ce dont quelque chose est issu, le surgissement, la transition, la pensée de l'apeiron, de la résistance opposée à toutes les limites. Et Heidegger remarquait en effet que l'arché concerne l'être, ce à partir de quoi le présent déploie sa présence, hein, là je suis là, le texte de Heidegger, l'apeiron n'est pas un étang. Or, on se représente l'illimité comme un élément universel, je cite Heidegger, le monde comme une bouillie encore indistincte, sans limite, de composition indéterminée et inépuisable. Or, écrit-il, Anaximandre n'est pas un chimiste raté et primitif. Sa conception de l'être de l'étang comme présence du présent est, dit Heidegger, un point de départ obligé pour comprendre l'art et la pensée grecque. L'apeiron est donc bien empêchement de la limitation. Il se rapporte à l'être, à la présence. Il y a un « a » privatif, un manque, mais nous ne devons pas comprendre cette privation ou cette négation, me semble-t-il, dans le commentaire de Heidegger, nous ne devons pas le comprendre de façon négative. C'est-à-dire que ce « a » privatif nous renvoie à ce qui vient à la présence, qui se détermine comme tel avec une certaine constance. Mais de l'apeiron, finalement, autre chose est dit. C'est-à-dire qu'il y a, pour Heidegger, le surgissement, donc l'éclosion, on pourrait dire, de la présence. Je cite, « L'empêchement de la limite dans le mouvement d'entrée en présence s'avère ainsi dans l'injonction intimée à l'être véritable de l'étang. L'empêchement est ainsi la sauvegarde de l'essence, de l'entrée en présence. Empêchement qui sauvegarde l'essence, l'apeiron, écrit Heidegger, est injonction au triple sens de issue, prédominance, ouverture. » Pour Maldinet, il y a, comme pour Heidegger, chez Anaximandre, une pensée complètement inouïe, unique, pensée de l'arché, mais on pourrait dire il y a aussi un geste fondateur. Car il ne s'agit pas seulement de rendre compte de ce qui est perçu, ou de ce qui est objet, on pourrait dire, de perception, d'une foi perceptive, mais cela, nous dit-il, dans Être de la langue et demeure de la pensée, peut finalement être compris de deux manières. Ou bien par une pensée, on va dire, de type, une pensée archaïque, on va dire, de type mythologique, dont les affirmations sont d'une grande profondeur, mais qui ne sont pas questionnantes. On pourrait dire une pensée verticale. Je cite Maldinet, « La justification des états de choses se confond avec le repli spontané dans le fond, citation de Kérény, où toute question s'éteint. Cette pensée porte tout en elle, je cite Maldinet, puisqu'elle est au commencement et demeure au commandement de tout état de choses. » Bon, ou bien cette pensée, on va dire, du commencement et du commandement, ou bien une démarche ontologique, nous dit Maldinet aussi dans Être de la langue, Maldinet précise lui-même entre parenthèses, fides quaerens intellectum, la foi éclairant la raison, une mention furtive à ce qui constituerait un prolongement théologique, on pourrait dire, de cette affirmation de Saint Anselme à Karl Barth, ou bien donc cette pensée ontologique qui cherche l'origine et non seulement le commencement, pensée qui cherche à éclairer l'étang manifeste quant à son être, en mettant en vue, dit Maldinet, le moment fondateur qui est celui de l'origine. L'origine d'un étang, écrit-il, est ce par où s'ouvre sa possibilité d'être. Ainsi, ce qui doit être reconnu pour Maldinet comme pour Heidegger dans cette parole d'Anaximandre, c'est, on pourrait dire, un certain embarras de la pensée face à ce qui constitue une des préoccupations essentielles de la philosophie, pour le dire très simplement et de manière très incomplète, la relation de l'essence et de l'existence. Heidegger a montré, comme le rappelle Maldiné, que la pensée de l'essence est contenue dans celle de la physis, ou que la nature devient le nom pour l'être. Ce qui signifie que penser l'être, c'est penser son antériorité vis-à-vis de l'étant, son immutabilité ou sa permanence. La phénoménologie a apporté un éclairage tout à fait unique et nouveau sur cette articulation de l'être et de l'étant, et plus particulièrement à chercher à comprendre la manifestation, la présence. C'est là le sens de la phénoménologie selon Maldiné. Comment l'étant vient-il à la présence à partir de lui-même ? Le propre, écrit-il, de la phénoménologie est de dévoiler l'être des phénomènes à partir d'eux-mêmes. Et de constater alors que les fondateurs de la phénoménologie ont bien sûr divergé sur le sens de l'être. Maldiné parle d'une phénoménologie du voir pour Husserl et d'une phénoménologie du comprendre pour Heidegger. Nous sommes aujourd'hui encore face à ce problème qui est, on pourrait dire, intact, celui de cet apparaître, de cette présence. Doit-on la penser à partir de l'essence ? Quel sens lui donner ? C'est sur cette question que s'achève le dernier grand livre de Maldiné, les dernières pages, pour moi les plus admirables, les plus inépuisables, on peut dire, le dernier chapitre consacré à l'œuvre d'art comme essence, dans « Ouvrir le rien, l'art nu ». L'essence désigne non seulement ce qu'est la chose, mais aussi ce qu'elle a à être, nous dit Maldiné, ce qui lui est possible d'être. L'essence est un apport libre, conclut Maldiné. L'essence est un apport libre. Ou pour le dire autrement, elle est à elle-même sa propre origine. Ce qui nous fait comprendre l'essence, ni en termes de substance, ni à partir de la subsomption, on pourrait dire, à l'affirmation primordiale de l'être, ramenée à un principe, on va dire, primordial, à une cause première par une pensée du commencement, mais à une origine. L'origine n'est jamais au passé, écrit Maldiné. Pour Maldiné, c'est donc l'apparaître, et seulement l'apparaître, qui nous donne accès à l'être. Il écrit, et c'est là une affirmation constante, peut-être la plus centrale de Heidegger, une essence, dit-il, est Anwesen, entrée en présence, et non Anwesenheit, présence en place. Comment concevoir alors cette entrée en présence ? Elle ne peut être comprise comme déploiement ou réalisation de possibilités, ni même simplement actualisation d'un pouvoir-être. C'est cet advenir, cette pensée de l'entrée en présence comme surgissement, comme éclosion de l'être, et son évanouissement que Heidegger a retenu de la parole d'Anaximandre, comme alternative à la détermination métaphysique de l'être. Pour Maldiné, ce qui est ici désigné par Heidegger, cette entrée en présence ou pensée de la manifestation est aussi la limite de son analyse. Je cite Maldiné, « Heidegger ne dit rien du néant de forme couvre l'avènement de l'œuvre, mais il note la spontanéité de la déclosion. » Il s'agit alors, me semble-t-il, de penser la manifestation non en termes d'essence originaire, mais de ce qui entre en présence dans l'ouverture de sa manifestation. Pour Maldiné, un ceci entre dans l'ouvert comme visage, là où un existant se tient ouvert pour l'ouverture, c'est-à-dire vis-à-vis d'une rencontre. La parole d'Anaximandre contient une radicalité que Heidegger n'a pas pu épuiser, ni complètement sonder. Rien ne peut nous assurer que quelque chose comme une présence ou une essence puisse nous être donnée. Que tout simplement quelque chose puisse apparaître. C'est ce que nous enseigne Anaximandre. Ce qui apparaît est aussi mouvant, imprévisible que ce qui disparaît. La vie est aussi insaisissable que la mort. La pensée de l'apeiron nous reconduit à un en deçà de la présence et de l'absence, mais qui en est inséparable. Quel statut pouvons-nous lui accorder ? Revenons à la source grecque. Pour la comprendre, nous avons à reconnaître ce que nous ne pouvons comprendre, c'est-à-dire ce qu'elle ne dit pas. Maldiné présente ainsi la difficulté. Dans la seule phrase, écrit-il, transmise par Simplicius, qui nous reste de lui, la première de toute l'histoire de la philosophie, Anaximandre dit que le principe des choses est l'apeiron. Il est ce d'où les choses ont leur naissance et où, au même lieu, elles ont leur destruction. Mais cette phrase ne dit pas, écrit Maldiné, mais cette phrase ne dit pas comment surgissent les choses. Elle passe outre à la dimension de l'événement, c'est-à-dire de l'avènement. À chaque fois, de ce plus, de ce pléon qui inaugure quelque chose comme un monde. Si la Peyronne est bien le fond des choses, il n'en est pas le fondement. Ainsi, avec la Peyronne, nous pensons, je reprends la fin de cette réflexion, eh bien, nous pensons le fond des choses et non le fondement. Maldiné reprend ici, on prend ici une distinction, on va dire, qui a une longue histoire, un long cheminement dans l'histoire de la philosophie, mais en quelques mots, il reconnaît reprendre ici donc une question essentielle, celle du rapport de l'existence à son fond. Elle a été, écrit-il, posée par Hölderlin, Nietzsche et peut-être encore plus nettement encore par Schelling. Cette question concerne le rapport du fond et de l'existence au sens de l'issue à soi. Comment l'existence émergente du fond est-elle à elle-même son propre fondement ? Nous avons donc à chercher comment l'existence émerge du fond. Cela, me semble-t-il, est contenu dans deux affirmations majeures. En premier lieu, tout ce qui est ou devient dans le monde constitue un excédent, un plus par rapport au fond. De la Peyronne, l'étant présent surgit comme un plus qui fait saillie et ce sur quoi il ne peut être en prise. En second lieu, la Peyronne est ce dont tout est issu, d'où tout provient. Le rapport au fond, écrit Maldiné, le Grundverhältnis, est dans Anaximandre le rapport à la Peyronne. Tout sort de la Peyronne, de l'indéterminé sans différence. Tout, mais non chaque être affirmant son essence, son qu'est-ce qui lui est possible d'être, ou qu'est-ce qu'il était à être. Il est éclairant de noter que la seule référence explicite et développée à la sentence d'Anaximandre qui est présente dans Penser l'homme et la folie se trouve dans le chapitre sur la transpassibilité, dans lequel Maldiné développe l'idée que l'accueil de l'événement et l'avènement de l'existant ne font qu'un. Si toute existence, on peut dire, advient à elle-même, c'est dans un devenir, dans une temporalité comprise à partir d'un présent, dans lequel un événement brise une continuité temporelle et fait advenir ce qui n'existait pas. Un présent inouï, un présent imprévisible, qui révèle la puissance incoative d'un événement. Je cite Maldiné, « L'essence de la manifestation n'a pas son fondement dans la Peyronne. Ce qui advient, l'existant, l'événement, ne peut donc avoir leur raison d'être, leur pourquoi dans la Peyronne. » Il convient alors, me semble-t-il, de distinguer deux sens de l'immuable. L'immutabilité du fond, comme le disait Maldiné, c'est-à-dire celle de la Peyronne, qui est celle de l'origine, et l'immutabilité de l'essence, qui est celle du fondement, ou pour le dire en termes bachelardiens, un versant diurne et un versant nocturne de l'immuable. Dans l'art L'éclair de l'être, Maldiné consacre un chapitre aux structures profondes et, je cite, au fondement existentiel du fantastique et de l'art fantastique. Et ce qui est commun à l'art et au fantastique, c'est la dimension de l'étrange, à sentir une présence d'ailleurs en tant le lieu, dit-il, je reprends, une présence d'ailleurs en tant le lieu qui est originairement le nôtre. L'art, la littérature ou la peinture nous reconduit donc à une dimension fondamentale de l'existence, car ce qui dépasse l'imagination, c'est ce qui nous remplit d'étonnement dans l'expérience, dans le réel, ce qui excède toute prise, qui va provoquer un saisissement ou un dessaisissement. Or, l'art fantastique, écrit Maldiné, c'est ce qu'il explique dans ce chapitre, nous parle de cette rencontre avec le réel, une rencontre, c'est-à-dire non pas un face-à-face, mais une traversée. Selon l'étymologie, impeira ou experientia, selon le père, elle est voyage jusqu'aux limites, écrit Maldiné, peras, absence ou privation de limites ou de formes en présence donc du monde. Donc la Peyronne lui-même est apéras, absence ou privation, mais il est aussi l'intraversable, traduit Maldiné, c'est-à-dire ce qui ne peut être franchi, l'au-delà de toute limite, non pas comme un lointain extérieur au monde, mais plutôt ce qui s'étend en deçà ou au-delà de ce qu'il perçoit et de ce qui se manifeste à lui. L'intraversable, c'est ce qui ne peut être saisi par la corrélation du sujet et du monde, du percevant et du perçu. La Peyronne ne peut pas se manifester, mais l'existant ne peut être au monde, être là, que s'il est présent en avant de soi, dans le lieu où il a à être, où se départagent un proche et un lointain, dans un présent qui est le sien, où se distinguent le passé et l'avenir. La limite, donc comprise par Maldiné, comme ce qui donne une profondeur à l'espace et ce qui rend possible une ouverture à la temporalité. Revenons au fantastique. L'existant fait l'expérience de l'effacement des limites dans l'élément nocturne, on pourrait dire, ou dans les ténèbres. Je cite, « La nuit est à la fois le moment et l'espace de l'indéterminé. L'élémental y règne dans l'absence de figure. Tout fait retour à ce qu'Anaximandre appelle la Pairone, l'illimité, l'indéfini, l'intraversable. » Or, cette absence de limite est une menace. Tout est contact. L'ici prend une valeur absolue, sans possibilité de prendre ses distances. L'espace est aboli et devient ubiquitaire, univoque, car partout c'est la même présence. La même menace, la même fermeture. C'est donc un espace clos, un espace figé dont on ne peut s'abstraire, un lieu d'où l'on ne part jamais. Cependant, l'art fantastique va combiner ou articuler dans une forme littéraire ou picturale l'indéterminé et le principe de la détermination. Donc la menace a un visage, celle de puissance adverse, spectrale, qui donne, on pourrait dire, oui, un visage à ce qui est sans visage, la Pairone. Il n'y a rien à envisager, écrit Maldiné, il ne fait exception de soi ni de rien en soi et ne donne ouverture à rien ni à soi. Que sont ces étangs dont Anaximandre lui attribue l'origine? Chacun est à sa perte au lieu de sa naissance. Cela signifie-t-il alors que tout part de la Pairone et tout y revient? Il me semble que Maldiné veut nous faire entendre une pensée plus subtile, plus nuancée. L'étang ne peut exister qu'à se différencier du fond. Ainsi, à cet indéterminé s'oppose un principe de détermination, c'est-à-dire qu'à l'universalité vide la Pairone s'oppose, on pourrait dire, la singularité irréductible de l'existant. Maldiné a voulu traiter cette difficulté. Comment chacun d'eux, singulier, peut-il tenir sa détermination de l'indéterminé? Dans une représentation esthétique, l'indéterminé prend corps dans un être, un passage, un lieu, et c'est non pas de l'extérieur de soi, des limites de soi, qu'il est présent, mais en soi. L'autre de soi est en soi, par exemple, sous la figure du double, et alors le sans-limite est ce qui vient éroder les limites du soi et du monde, effacer la frontière entre le monde extérieur et le monde intérieur, comme par exemple dans le rêve. Nous voudrions terminer en dégageant les conséquences de cette réflexion dans le champ de la psychopathologie. Je vais être très allusive ici, mais c'est un point qui me semble très très important. L'explication la plus éclairante qu'en donne Maldiné se trouve dans la lecture qu'il propose de l'étude de Ludwig Binswanger consacrée au cas Suzanne Urban. Et comme il l'indique dans la préface à la traduction française, Binswanger veut comprendre les malades dans toute la spécificité de leur être au monde. Dans une perspective phénoménologique, on pourrait dire, c'est leur incapacité à être présent et à exister par soi-même. Il procède à une reconstitution des étapes, on va dire, biographiques, pour mettre à jour la manifestation, je cite Binswanger, d'une certaine puissance au cœur de la présence, nous voulons dire puissance de terreur ou de destruction. C'est comme le résume Binswanger une histoire de la souffrance, mais d'une souffrance destructrice, décrite comme emprisonnement, je cite toujours Binswanger, séquestration, appauvrissement. L'homme est un être qui, certes, existe, qui grandit, qui s'humanise, on pourrait dire, par la souffrance, mais celle-ci peut aussi le confronter au fond terrifiant de tout existant que chacun porte en lui-même. Et c'est dans la lecture de l'ouvrage du phénoménologue hongrois Wilhelm Szilassy, dans « Puissance et impuissance de l'esprit », que Binswanger et Maldiné après lui vont, on peut dire, dégager toute l'importance de ce concept. Ce qui s'y montre, s'appuyant sur le dialogue platonicien, le Philebe, écrit Binswanger, c'est le caractère de la Pairone, ou de l'illimité de la pure souffrance, comme de la pure jouissance, toutes deux échappant à la koinonia, c'est-à-dire à la communauté des possibilités d'être humaine. Maldiné suit cette interprétation dans l'analyse de la psychose qu'il propose dans Art et Existence. Le schizophrène a horreur du vide. Il peut laisser place à n'importe quoi, mais c'est toujours, écrit Maldiné, la même menace sous la forme sans forme de l'indéterminé. Dans une réponse à Binswanger, à l'occasion du symposium de 1961, organisé en l'honneur de Binswanger, qui venait de fêter ses 80 ans, texte que l'on trouve dans Présent Henri Maldinet, Maldinet découvre, enfin souligne pardon, l'importance de la Peyronne pour la phénoménologie et pour la psychopathologie. Il analyse ainsi le délire de persécution. Je cite, « En réalité, c'est la frontière de l'interne et de l'externe qui est faussée. La ligne de démarcation qui naît de la bipolarité de l'introjection et de l'expulsion participe de la même déficience que la transcendance elle-même. Cette nouvelle frontière entre le dedans et le dehors est unilatérale. Elle n'a qu'un seul côté. Au-delà s'étend le no man's land, qui est le champ de la Peyronne, des objectivités glissantes et furtives. » Ainsi, il peut y avoir, me semble-t-il, deux cas de figure, ou bien un durcissement des limites. Les limites sont infranchissables, rigides. La séparation de l'intérieur et de l'extérieur est soumise à une hyper-délimitation. Ou bien les limites sont mouvantes, estompées, confuses, et tout est contact. Tout revient à l'indétermination. Le moi, avec le monde, se perd, on pourrait dire, dans la Peyronne. Pour conclure, deux aspects de la Peyronne ont été examinés. Tout d'abord, l'indétermination, comme Nietzsche, on va dire, dans une pensée du devenir, hein, et l'illimitation, comme Heidegger, pour une pensée de l'entrée en présence. Mais ce qui me semble nouveau ici, c'est le statut qui lui est conféré par Maldinet. C'est l'intraversable. Il est une sorte, je cite, de mur cosmique, infranchissable, insaisissable, à partir d'où tout commence. Le concept de forme peut alors être compris à partir de cette opposition ou tension du fond et de la forme, de ce qui est sans limite et de la limite. La forme est intégration du fond ou de la Peyronne. Le fond est donc pris, enveloppé par le mouvement et le rythme des formes, dans une totalité dans laquelle le fond et la forme ne font plus qu'un. La pensée de la Peyronne n'a donc de sens, c'est ma compréhension, enfin mon interprétation, c'est une pensée qui n'a de sens que si c'est une pensée du lien, c'est-à-dire de la dépendance des étangs vis-à-vis du fond, mais également de la discontinuité et de la rupture avec le fond. La conclusion de « être de la langue et demeure de la pensée » nous mène à l'essentiel. La question de la Peyronne est traitée en termes de puissance, suivant l'analyse de Schelling. Puissance qui est au commencement du tout, naissance du tout, ou puissance qui est aux possibilités d'être, ou de ne pas être, naissance des êtres. Donc la Peyronne a une portée ontologique décisive dans la pensée de Maldinet. Il y a ce retour incessant à la parole d'Anaximandre. Deuxième chose qui me semble très importante que j'ai voulu montrer, c'est que la pensée de la Peyronne permet à Maldinet de penser l'altérité dans sa forme la plus radicale. L'opposition du sujet et de l'objet qui a marqué toute l'histoire, on pourrait dire, de la philosophie moderne et qui est interrogée de manière féconde par la phénoménologie, est ici neutralisée. Et elle est reconduite à une distinction première, à une distinction fondatrice, celle qui structure toute la philosophie grecque pour Maldinet, l'opposition de la limite et du sans-limite. L'opposition d'un principe de détermination et de l'indéterminé, l'opposition de la mesure et de la démesure. En ce sens, la réflexion de Maldinet est très différente de la démarche de Heidegger, car il ne s'agit pas de retrouver, comme chez Heidegger, la trace d'un impensé originel, mais au contraire, de nous étonner de cette pensée qui est la plus accomplie et la plus achevée que nous avons à nous réapproprier pour penser autre chose. Autre chose, quoi ? Pour Maldinet, pour penser ce que d'autres philosophes ou poètes ont nommé l'ouvert, et que la philosophie grecque ne thématise pas, peut-être parce que les Grecs en avaient une expérience immédiate, directe, et que nous ne l'avons que de manière exceptionnelle. Nous existons rarement, disait Maldinet, et je rajouterai, les poètes et les philosophes sont rares. Plus radicalement, ce qui nous est donné à penser, on pourrait dire, ici, c'est ce que nous avons perdu, hein, ce qui se perd dans une nuit obscure, et que nous retrouvons, dans l'œuvre de Maldinet. C'est une compréhension grecque, entièrement positive, lumineuse, pourrait-on dire, de la limite. C'est-à-dire que la limite n'est pas, comme dans la philosophie moderne, un obstacle, un empêchement, une borne, je pense à Kant par exemple, mais elle est, on pourrait dire, ici, pensée vraiment de façon positive, comme ce qui est la manifestation ou la présence du logos dans le monde humain. Nous le comprenons ici bien avec Maldidé, on peut se perdre dans l'illimité. Mais rien n'est plus redoutable que l'absence de limite. Par conséquent, la limite peut être comprise, je reprends une expression de Guillermi dans un très beau commentaire de Platon, comme un point de perfection. Comme ce qui peut éviter une perte, justement. Et chez Maldidé, il faut aussi comprendre ce qui peut être intégré, c'est ce que je voulais montrer, être intégré on pourrait dire, dans une forme, celle du logos, celle de l'espace pictural, celle de l'espace littéraire, et on pourrait comprendre l'espace finalement pictural ou l'espace littéraire comme un espace habitable. Et donc c'est aussi la question de l'architecture qui est posée. Cet apeiron, Maldidé remarque aussi que c'est ce que André Duboucher nommait l'épaisseur, hein, l'épaisseur de la terre ou l'épaisseur de la langue. Donc cette traversée, on pourrait dire, est ici celle-même de tout être qui existe à l'avant de soi comme présence, et c'est le sens même de l'existence qui est contenu, hein, dans cette tension indépassable des limites et du sans-limite.